Imaginez, vous êtes tranquillement chez vous, votre endroit à vous, votre refuge, et là, en pleine nuit, la sonnette retentit. Elle continue, encore et encore. Vous ouvrez la porte, et derrière, des inconnus. Mais pas n'importe quels inconnus. Des gens qui vous connaissent, et pas juste un peu. Ils vous admirent.
Lors du concert de Taiki Tadju auquel j'ai eu la chance d'assister, l'ambiance était électrique. Mais au-delà des cris de l'euphorie, une question se pose. Combien parmi ces fans sont de véritables passionnés, voire obsessionnels ?
Bienvenue dans Obsessed. Aujourd'hui, on plonge dans les zones troubles du fanatisme obsessionnel. Moi, c'est Ambre Tidgat et je suis avec
Eléa Allegro,
Yasmine Ruissi
et Léa Rousseau.
Ensemble, on va explorer ce qui se passe dans la tête de ses fans. Ceux qui, guidés par l'amour, l'admiration, finissent parfois par dépasser la limite. Prenez Mastu par exemple, le youtubeur français suivi par des millions de personnes. Il a dû déménager récemment. Pourquoi ? Parce que son adresse avait fuité et ses fans ont commencé à débarquer chez lui. Pour eux, ils le connaissent vraiment. Ils partagent son quotidien à travers ses vidéos. Alors pour eux, c'était presque logique. On est potes, non ? Sauf que non, justement. Ce qu'ils voient, c'est une illusion, une proximité créée par les réseaux sociaux. Les célébrités partagent des morceaux de leur vie, des instants qui paraissent intimes, mais ce ne sont que des fragments soigneusement choisis. Et pourtant, ça peut suffire à convaincre certains fans qu'ils font vraiment partie de cette vie-là. Mais voilà, parfois, cette admiration dépasse une ligne invisible. Celle où l'admiration devient une obsession, où la passion se transforme en quelque chose de plus sombre, plus dangereux. On connaît tous des histoires dramatiques, comme John Lennon assassiné devant chez lui par un fan qu'il adorait tellement qu'il en a perdu la tête. Ou Selena Quintanilla, une célèbre chanteuse d'Amérique latine. Tuée par la présidente de son propre fan club. Oui, vous avez bien entendu, son fan club. Comment on en arrive là ? Comment des fans, au départ inoffensifs, finissent par franchir cette limite ? Et pourquoi ces relations à sens unique deviennent-elles parfois si intenses, si extrêmes ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un fan pour que tout bascule ? C'est ce qu'on va explorer ensemble, avec des récits, des témoignages et l'analyse d'experts. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire vraiment être un fan obsessionnel.
Bon, les filles, je voulais absolument qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Vous savez, ces fans qui deviennent tellement obsédés, qui mettent en danger les célébrités. Vous avez sûrement des exemples en tête, non ?
Oui, et malheureusement, il y en a beaucoup trop. Vous vous souvenez de Christina Grimmi ?
Oui, je vois c'est qui ? C'est la chanteuse de The Voice USA, non ?
Ouais, c'est ça. En 2016, un fan obsédé est venu à son concert en Floride. Après le show, pendant une séance de dédicace, il l'a abattue. Et le pire, c'est qu'il ne la connaissait même pas personnellement. C'était juste une fixation qu'il avait construite tout seul.
Ce qui est vraiment triste dans cette histoire, c'est qu'elle était super accessible avec ses fans.
Et des tragédies comme ça, malheureusement, il y en a énormément. Par exemple, dans le cinéma, il y a aussi Rebecca Schaefer.
Oui, elle jouait dans My Sister Sam. En 1989, un fan avait engagé un détective privé pour trouver son adresse. Il s'est planté chez elle avec un pistolet et voilà.
Totalement, c'est devenu un vrai danger pour les célébrités. Surtout celles qui partagent beaucoup leur vie en ligne, malheureusement. Et justement, c'est encore pire dans la K-pop. Je sais pas si vous connaissez, c'est Saseng. En fait, c'est des fans complètement fous qui traquent les idoles.
Oui, il y a des idoles comme Taeyang de Girls' Generation qui ont été agressés par des Saseng.
Taeyang, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ?
Bah oui, en fait, pendant un événement, il y a un fan qui a carrément essayé de monter sur scène, qui l'a attrapé devant tout le monde, et du coup, maintenant, elle est traumatisée.
Waouh, ça doit être tellement dur émotionnellement. On parle souvent des agressions physiques, etc., mais l'anxiété, c'est pas rien non plus. Hein.
Surtout que les Saseng, c'est un vrai fléau. Je lisais que des fans suivent des idoles jusque dans les toilettes, ou même qu'ils achètent leurs informations personnelles sur le dark web.
Et quoi, personne ne fait rien ?
Les agences, elles essayent, mais c'est compliqué. Surtout en Corée, où les Saseng sont presque vus comme un phénomène culturel. Moi, franchement, je trouve ça fou qu'on normalise ça à l'heure d'aujourd'hui.
Personnellement, ce qui me touche le plus, c'est que pour ces célébrités, c'est quelque chose qui les pousse vraiment à bout.
Oui, en plus, c'est une preuve que la célébrité, c'est pas juste tout beau, tout rose. Par exemple, il y a Yukiko Okada. Je sais pas si vous connaissez, mais c'était une célèbre idole japonaise dans les années 80. Et en fait, à cause de la pression, elle a fini par se suicider. Et il y a carrément un phénomène qui s'est créé autour de ça, qui s'appelle le syndrome d'Okada, où tous ses fans, en fait, enfin pas tous ses fans, mais une bonne partie de ses fans, qu'ils ont fini par, tellement ils étaient affectés, ils ont fini par se donner la mort aussi.
Peut-être qu'on devrait se poser des questions sur notre façon de réagir face aux célébrités. Parce que si les fans normaux mettent trop de pression, ça encourage les pires comportements possibles.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je voulais en parler de base, parce que, en fait, si on admire quelqu'un, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des humains, c'est pas des objets, des fantasmes à posséder. Par exemple, moi, il y a une musique que j'aime beaucoup. C'est une musique de Yunjin de Les Seraphim qui a en fait créé une chanson où elle parlait du fait qu'elle était prise comme un objet, que les gens ils pensaient que c'était une poupée avec qui ils pouvaient jouer, qu'elle n'avait pas d'émotion. Et franchement, moi, je trouve ça fou qu'on puisse ressentir ça.
Et surtout qu'en fait, la sécurité des artistes, c'est essentiel, que ce soit en Occident ou en Asie. On doit vraiment prendre ça au sérieux.
Oui, vraiment. Je pense aussi que cette admiration, elle doit vraiment rester saine. Quoi.
Saine et à distance.
Et pour aller plus loin dans notre réflexion sur les comportements obsessionnels des fans, on a eu la chance d'interviewer Elodie, une fan passionnée de K-pop qui va nous partager son expérience et son point de vue sur cette relation complexe entre les idoles et leurs fans. Tout d'abord, comment as-tu découvert la K-pop et qu'est-ce qui t'a attirée dans cet univers ?
Alors j'écoute la K-pop depuis plus de 10 ans maintenant, c'est grâce à ma cousine qui était fan de K-pop à l'époque et elle m'a montré des clips vidéo et depuis j'écoute je crois quasi tous les jours de la K-pop, même si maintenant je regarde moins de contenu, mais je suis toujours aussi fan de la K-pop.
Est-ce que tu as une ou plusieurs idoles préférées et pourquoi ?
J'en ai plus qu'une parce que j'ai du mal à choisir et j'ai l'impression de ressentir cette proximité avec ces idoles-là, du coup quand je choisis un préféré, j'en ai toujours un autre en plus. J'arrive pas à en choisir un, en fait.
Que penses-tu des fans qui dépassent les limites, comme les saseng en K-pop ?
Alors, je trouve que ce sont des personnes qui sont fortement attachées à ces idoles-là. Et ils ont cette envie d'une, ils ont envie d'une proximité avec leurs idoles. Et des fois, ils dépassent vraiment les limites en allant dans leur dortoir, en allant à l'aéroport, en les suivant partout durant leurs horaires de performance en live, dans les music shows et tout ça. Et je trouve que ce sont des personnes, je dirais pas dérangées, mais qui ont une façon de penser comme si les idoles leur appartenaient, comme s'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient alors que ce n'est pas le cas.
Et du coup, pour toi, en fait, c'est quoi dépasser les limites ? À partir de quel moment on peut dire que wow, là, c'est vraiment dépassé, c'est de l'obsession, c'est pas naturel.
En fait, je crois que le concept de la K-pop, au fil du temps, c'est devenu cette proximité entre fans et idoles, ce qui fait que maintenant, les fans se pensent que tout est permis et qu'ils peuvent aller les voir n'importe où, n'importe quand. Et j'ai entendu des histoires, par exemple, des fans qui allaient dans les hôtels au Japon durant leurs concerts et qui prenaient des photos dans leur chambre, ce que je trouve vraiment dépassé. Et même juste aller les voir dans des fan meetings qui ne sont pas dans, dans leurs horaires officiels, qui ont préparé des choses avant, au préalable, qui n'ont pas communiqué aux fans, je trouve ça déjà assez dérangeant.
Mais donc, tu parles de proximité là aussi, mais au début de la conversation, tu as aussi parlé que tu pensais être en proximité avec ces personnes-là, mais c'est quoi la différence exactement, quel genre de proximité est obsessionnelle et quel genre de proximité ne l'est pas ?
Je crois que quand on est fan d'une personne, il faut savoir se mettre des limites, se dire « oui, je sens cette proximité-là avec ce chanteur-là, mais je n'ai pas le droit d'aller le voir dans son hôtel, n'importe où, le suivre. » Et moi, je sens plus une proximité comme si c'était un ami, une amie, qui comblait un peu ce manque. Quand je regarde les émissions, j'ai l'impression d'être devant en FaceTime avec mes amis, en fait, et de les voir. Et il y a cette barrière-là, justement, qu'on devrait tous se mettre et se dire on est fan et on peut croire tout ce qu'on veut, mais pas agir d'une telle sorte.
Et selon toi, quelle a été l'histoire la plus marquante ou choquante que tu as entendue par rapport au Saseng ou dans le monde de la K-pop ?
J'en ai entendu plusieurs. Il y a cette fan qui a donné un jus d'orange, je crois, à un chanteur, et qui dedans avait mis de la colle. Du coup, il s'est intoxiqué et a dû aller à l'hôpital. Et depuis, il a un peu la phobie des jus de pomme, jus d'orange, enfin, des trucs ainsi. Et j'ai entendu aussi qu'une fan avait envoyé une lettre à un chanteur avec son sang, mais son sang de ses règles. Et c'est très... je trouve ça horrifiant. Enfin, c'est... Pour nous, c'est quelque chose que même une personne fan, on ne le ferait jamais. C'est des choses qu'on ne peut même pas penser. Empoisonner quelqu'un, envoyer une lettre avec son sang, enfin, c'est des choses que je trouve mais insensées.
Et donc, à cause des Saseng, on vous prend tous pour des fans obsessionnels.
Oui, mais des fois, j'ai même peur de dire aux personnes, à mon entourage, aux nouveaux amis que je rencontre, que je suis fan de K-pop. Je les laisse découvrir par eux-mêmes. Parce que après, si je leur dis, ils vont se dire... Elle est assez bizarre, elle est fan de K-pop, je suis sûre qu'elle vénère tous les soirs son idole. Je trouve qu'à l'époque, c'était très tabou d'être fan de K-pop, d'anime, de manga, tout ce qui était culture asiatique. Mais depuis le Covid, on a eu cette remontée vraiment de cette culture asiatique qui fait que maintenant, les gens jugent moins. Même s'ils ont toujours ces préjugés sur le fait qu'être fan de de la K-pop, par exemple, c'est être fan obsessionnel, c'est écouter tout le temps son groupe, être obsédé par ses personnes et vouloir se marier avec. Alors qu'on n'est pas tous comme ça, et c'est vraiment nous mettre dans des cases, dans des catégories dans lesquelles on ne s'identifie absolument pas. Look.
If you had... On a déjà tous été fans d'une ou plusieurs célébrités, mais quelles sont les limites de cette adoration et quand est-ce qu'on peut considérer que en fait ces limites sont dépassées ? À partir de quel moment on peut être considéré comme fan obsessionnel ? Du passage d'une simple écoute de chansons de son artiste préféré à une obsession pour sa vie personnelle, au point qu'on le considère comme un ami intime, est connu sous le terme d'érotomanie. Ce phénomène peut se caractériser par la conviction d'être aimé par l'autre. Ça peut donc inclure des comportements comme chercher à connaître son adresse, se rendre chez lui, le suivre dans la rue, vouloir devenir comme lui ou entreprendre des actions parfois irrationnelles dans l'espoir de lui faire plaisir. Par exemple, ce que vous entendez en ce moment, c'est la chanson Stan du rappeur Eminem. L'obsession fan est arrivée à un tel niveau qu'il finit par tuer sa petite amie et de se suicider, car le rappeur a oublié de répondre à ses lettres. Même si cette chanson ne relate pas vraiment une histoire réelle, elle s'inspire quand même de plusieurs expériences que Eminem a vécues avec ses fans. En 2023, des chercheurs chinois ont étudié le phénomène du culte des célébrités. Ils ont remarqué que des études précédentes avaient déjà montré que ce culte avait des effets négatifs sur la santé mentale, comme l'anxiété, la dépression et des pensées obsessionnelles. Leur objectif était de montrer en quoi les smartphones avaient une place dans ce contexte. Étant donné qu'on est tout le temps connecté, les fans peuvent maintenant consacrer une part plus importante de leur vie dans l'adoration de leur célébrité. Pour faire leur étude, ils ont recruté un peu plus de 1000 étudiants entre 19 et 26 ans qui viennent d'universités différentes. Ces participants ont répondu à une série de questions qui évaluent leur niveau d'adulation pour les célébrités, leur anxiété sociale, leur dépendance à leur téléphone portable et leur... statut socio-économique. Donc selon les informations de l'étude, les personnes qui présentaient un niveau d'anxiété sociale élevé compensaient un sentiment de solitude ou le fait qu'ils ne sentent pas à leur place dans la société.
Bonjour, Cynthie Marchal. Je suis conseillère scientifique à l'Université de Mons. Et je donne des cours aussi à la haute école, ici à l'ALEA. Alors, les mécanismes derrière l'attachement à une personne, à un groupe, nous pouvons regarder cela en fonction de ces questions, de notre identification quelque part, et de voir qui nous sommes. Et donc, derrière cet attachement à une personne qu'on admire ou à un groupe qu'on admire, il y a aussi cette question de se définir soi. De voir à quel groupe on aimerait ou à quel groupe on appartient. Et donc, ça nous permet quelque part d'avoir toute une série d'informations sur nous-mêmes et c'est un enjeu quand même de pouvoir savoir où on va à partir de qui nous sommes. Et donc, tout au long de notre vie, on va être influencé par différentes choses, et notamment ces figures d'appartenance, ces figures d'intérêt qu'on admire, et qui vont être finalement ce modèle auquel on veut ressembler. Et donc ça, c'est un processus derrière que l'on appelle l'identification. Et donc, c'est le fait de pouvoir s'identifier à certaines figures d'attache, et on va changer en fonction de notre évolution, en fonction de notre vie. Tout au long de notre vie, on va changer régulièrement de figure d'attache. Et donc, il y a différentes figures d'attache et puis différentes formes d'attachement à ces figures d'attache, et de voir un petit peu dans quelle mesure cette identification peut parfois être délétère, dans le sens où on finit par plus pouvoir se défaire de cet attachement. Derrière ce groupe, il y a quelque part aussi son identité qu'ils défendent. Parce que lorsqu'on est identifié à un groupe, la manière dont ce groupe est évalué par les autres renvoie quelque chose sur nous-mêmes aussi. Comme on appartient à ce groupe, on possède les mêmes caractéristiques que ce groupe. Si le groupe est attaqué, quelque part, c'est aussi notre identité qui est attaquée. Il y a certaines personnes qui se rattachent à des groupes forts, à des leaders forts, plus rapidement, parce qu'elles ont ce besoin-là en elles. Quoi d'autre ? La question de l'estime de soi aussi, à mon avis, quelque chose derrière, de se dire, si on n'a pas une très forte estime de soi, on va être peut-être plus enclin à se laisser influencer par les autres. Et donc, si on est inscrit dans un groupe de fans, les autres vont avoir une influence très forte sur nous-mêmes, parce qu'on n'aura justement pas cette prise de recul et cette capacité à se dire « non, on a des choses aussi intéressantes à dire » et les autres ne détiennent pas l'information, la vérité.
Précédemment, on a parlé des comportements obsessionnels de certains fans, et maintenant, je vous propose de nous mettre à la place des personnes qui ont subi ces comportements, histoire de comprendre un petit peu plus la gravité des choses. On va prendre l'exemple de deux youtubeurs, mais attendez, je les laisse se présenter.
What up, we're back. I'm Ethan.
I'm Grayson.
Ethan et Grayson Dolan, ce sont deux jumeaux américains qui sont devenus célèbres sur Vine en 2013 alors qu'ils n'avaient que 14 ans. Ils ont par la suite continué leur carrière sur YouTube et Instagram avant de quitter les réseaux sociaux du jour au lendemain en 2020. C'est seulement un an plus tard, dans un épisode d'un podcast qu'ils avaient, qu'ils ont expliqué les raisons de leur départ. Selon eux, le fait d'avoir été exposé très jeune sur les réseaux sociaux n'était pas facile pour eux, parce qu'ils ont eu du mal à se construire en tant que personne. En plus de ça, ils avaient derrière eux une communauté à plus de 2 millions d'abonnés et ressentaient une pression constante à devoir poster du contenu. 2019 n'était pas non plus la meilleure des périodes pour eux, puisqu'ils ont appris que leur père était atteint d'un cancer et qui, malheureusement, est décédé dans le courant de l'année. D'ailleurs, un événement choquant les a d'autant plus marqués. Des fans sont venus à l'enterrement de leur père dans le but de les rencontrer, alors qu'ils avaient bien demandé à leur communauté de respecter leur deuil et le dernier moment qu'ils souhaitaient passer en privé avec leur père. Ces fans ont même créé un plan qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux avec un hashtag irrespectueux, le hashtag Sean Dolan Meetup Party, donc la fête de rencontre de Sean Dolan en référence à leur père. Sur ce plan, on trouvait des consignes du genre s'habiller en noir, présenter ses condoléances, pleurer un minimum pour pouvoir faire une photo après avec eux. Pour les jumeaux, cette intrusion a été la goutte de trop, celle qui les a poussés à quitter les plateformes. Quand on voit ce genre de comportement, on peut facilement se rendre compte des conséquences que ça peut avoir sur les victimes. On va parler de stress post-traumatique, d'anxiété, d'agoraphobie, voire des issues tragiques. Les histoires partagées dans ce podcast montrent l'importance de respecter les limites d'autrui. Même si on admire une personnalité publique, ne pas respecter ses limites peut entraîner des conséquences dramatiques et, dans les pires des cas, la mort. C'était Eléa,
Léa,
Yasmine
et Ambre.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes restés jusqu'ici, on espère que c'était par curiosité et pas parce que vous êtes
obsessed.